Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Faut pas oublier que ce qu'on imagine, on le crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on est baigné dans des scénarios catastrophes. C'est hyper facile d'aller imaginer les pires scénarios et ça devient de plus en plus difficile en fait, d'imaginer des scénarios positifs. Et l'optimisme, en fait, c'est le prérequis à la construction d'une société qu'on espère un peu plus chouette. C'est hyper, hyper, hyper important d'aller le rappeler que si on n'imagine pas un futur souhaitable dans son parcours professionnel, personnel, peu importe, personne ne va le faire à notre place. Donc, c'est une sorte d'hygiène que d'oser l'optimisme pour créer parcours de vie et parcours de société.
Le simple fait que j'y pense, le créer, or rien ne m'y prédestinait. La seule chose que je faisais était d'oser et de lâcher prise. Ce sont les mots de Catherine Testa, et vous vous imaginez bien qu'ils ont résonné en moi. Pour Catherine, le changement sociétal passe avant tout par l'engagement individuel. Nous sommes la société, et face aux transitions à venir, ce qu'il nous faut avant tout, c'est de l'optimisme pour agir. Alors il y a ceux qui diront qu'être optimiste, c'est facile à dire, mais bien loin d'être évident. Et il y a ceux qui, comme Catherine, ont eu toutes les raisons de ne pas opter pour l'optimisme, mais qui pourtant ont décidé d'y croire. Après un parcours chamboulé et rempli de contretemps comme on les aime, Catherine l'a fait. Elle a osé et lâché prise pour donner naissance au média L'Optimisme. Sur vos fils d'actualité Facebook ou Instagram, forcément, vous avez croisé une fois la plume de Catherine. Parce que les réseaux sociaux, elle les inonde d'optimisme. Vous savez ce petit logo en citron? C'est elle. Elle éparpille partout ses citations optimistes pour nous inciter à prendre le contrôle de notre vie. Dans cet épisode, on revient avec elle sur son parcours, sur ses embûches, ses rêves, sur la création de son média. Et surtout, on évoque cette urgence de remettre l'optimisme au cœur de nos vies. Aujourd'hui plus que jamais, opter pour l'optimisme est une des plus belles façons de vaincre ce que la vie nous impose. Alors ne lâchez rien. Quel que soit votre rêve, croyez-y fort et n'abandonnez pas. Des jours meilleurs nous attendent, mais aujourd'hui est déjà un immense cadeau.
Go !
Bonjour Catherine, merci d'être avec moi pour ce moment d'échange.
Bonjour Victoria, bonjour à tous et à toutes.
Alors, je crois que tu as des messages assez puissants à partager à ma génération, alors je suis ravie de pouvoir te donner la parole. Après un long cheminement que tu vas nous raconter, tu as créé L'Optimisme, le premier média d'initiative positive en France. Mais mis à part cette petite casquette d'entrepreneur positive, comment tu souhaiterais te décrire personnellement? Il paraît que tu es une grande sensible, Catherine.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui toujours tendance à se décrire par rapport à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vois, je suis machin, chez truc. Et en fait, on est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que c'est très difficile, je crois, pour moi aujourd'hui de me décrire parce que je ne rentre pas dans les cases. Alors, ça montre aussi qu'on peut avoir plein de petites casquettes, comme tu dis. Moi, j'ai une cause. Ma cause, c'est l'optimisme, c'est montrer qu'il y a des gens qui changent de vie, qui ont des parcours de vie incroyables et qui se mettent au service parfois des autres et de leur passion en l'occurrence. Et ça, je vais l'explorer à travers différents outils. Donc, comme tu dis, le média l'optimisme.com, mais en parallèle, j'ai aussi un club d'entreprise, qui a un réseau d'entreprises qui réfléchit sur toute la notion de qualité de vie au travail qui s'appelle l'optimisme.pro, mais je suis aussi auteur. J'ai écrit 2 livres aux éditions Michel Lafon. Quoi d'autre? Je fais des petits dessins sur Instagram, selon LinkedIn, je suis une influenceuse sur leur réseau. Donc, on peut avoir une cause, tu vois, et plein de... comment ça s'appelle ? Plein de casquettes, en l'occurrence, et pas seulement celle dans laquelle on met très souvent, c'est l'entrepreneuse un peu successful qui a réussi à monter un projet. Il n'y a pas du tout que ça.
Je crois que toi aussi, tu es issue d'une famille d'agriculteurs. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance bercée au milieu de la campagne normande ?
C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai toujours grandi entre deux cultures, on va dire. La première, c'était celle de ma Normandie, qui était une culture, ben, tu vois, de mon temps libre. J'adorais monter sur le tracteur, sur la roue du tracteur. Ceux qui ont grandi à la campagne ou dans des fermes savent ce que c'est.
Je comprends.
Tu vois, ce petit bonheur que, voilà, qu'on connaît pas forcément, c'était ma passion. Et quand on allait, quand le tracteur allait raboter la bouse des vaches, en l'occurrence, mais je trouvais ça génial. Et en parallèle, j'ai aussi beaucoup vécu à Paris, donc dans le 8e arrondissement. Et il y avait une sorte de, c'est peut-être ça qui m'a donné, tu vois, le goût des autres, le goût de voir la beauté dans les parcours de vie individuels, parce que mon voisin en Normandie, je me rappelle de ces grandes tablées où il parlait patois quand j'étais plus jeune, où je comprenais même pas ce qu'il me disait, tous ces, ce qu'on appelait les aïeux, tu vois, les plus anciens du village. Et en parallèle, j'étais dans Paris, dans des familles un peu bourgeoises, qui étaient mes copains à l'école. Et ça me donnait cette curiosité de l'autre en me disant, mais on a tous des parcours de vie super singuliers, on n'est pas forcément plus heureux à gauche ou à droite, hein, mais les parcours de vie sont différents et tout le monde a une beauté intérieure que j'avais vécue, tu vois, et c'était pas cette sorte de boboïsme en se disant ah, les autres sont bons, non, moi j'ai grandi vraiment les pieds à la campagne, quoi. Voilà, ça m'a probablement appris ça, en fait, et qu'on pouvait vivre deux vies complètement déconnectées, décorrélées l'une de l'autre et s'y épanouir très franchement.
Je suis tout à fait d'accord. Et alors, quels étaient tes rêves quand tu étais petite et que tu vivais à la campagne ?
Écoute, je sais pas trop. Je dirais que mes rêves, ça... J'ai du mal à m'en rappeler, en l'occurrence. Je sais pas si j'avais des grands rêves. Tu sais, quand t'es enfant, t'en as qui rêvent d'être pompier, vétérinaire ou autre. Moi, j'ai pas trop ces souvenirs-là. Par contre, je me rappelle de ce que j'aimais faire, en fait. Ce que j'aimais faire, c'était quand j'étais plus jeune, tu vois, à la cour de récré, j'avais écrit un magazine, tu sais, hein, avec, c'était 4 feuilles blanches. J'avais fait des mots croisés, je me rappelle, ouais, il devait y avoir 10... tu vois, 10 mots à trouver, une sorte de gazette de ce qui se passait dans les classes. Et je crois que bah, c'était ça mes plus grandes passions. C'était peut-être déjà de communiquer, je m'en étais pas rendu compte.
Oui, tu dis que quand on cherche ce qu'on voudrait faire plus tard, finalement, il faut aller chercher l'enfant intérieur qu'on était quand on était petit et ce qui était naturel pour nous. C'était quoi, toi, ce qui était naturel pour toi quand tu étais petite ?
Je pense que j'ai une résilience naturelle. J'ai une capacité à prendre de la distance qui est assez naturelle, une capacité à faire preuve de résilience et ce que j'aimais, c'était vraiment, c'était proposer une clé de lecture à mes copains. Tu sais, j'étais toujours la bonne copine qui écoutait les autres, qui avait une vision aussi un peu décalée, un peu différente, qui était toujours un peu un côté hors norme, mais j'adorais transmettre. Tu vois, j'évoquais tout à l'heure le fameux journal dans la cour de l'école, que j'avais créé pour moi, et le fait d'aimer la série Sex and the City, où c'est une journaliste qui raconte, enfin qui écrit des nouvelles dans un magazine, et ben finalement, pour moi, c'était du diffus, parce que je pensais pas que ça pourrait être un parcours de vie, mais c'est ce qui me tenait à cœur. Diffuser, c'est ce qui me tenait à cœur, un peu comme ce que tu fais avec Nouvel Oeil. En l'occurrence, tu veux partager ce qui, toi, t'intéresse, et j'ai toujours eu ce goût-là, en l'occurrence, de faire ça. Et c'est vrai que quand on se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard, la première chose, c'est se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et c'est pas qu'est-ce que je veux que la société fasse, enfin, pardon, qu'est-ce que je veux que mes parents qu'est-ce que mes parents veulent que je fasse, qu'est-ce que la société veut que je fasse, ouais. qu'est-ce que mes proches, mon boss, mon manager veut que je fasse, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et ça, ça demande, bah, comme tu l'évoques, de retourner à son enfant intérieur quand on était plus jeune, et retourner à ce qu'on a peut-être éteint au fil de l'eau, parce que quand on nous a dit que le dessin, quand un prof t'a dit un jour, le dessin, tu feras ça en passe-temps, c'est pas sérieux, t'as l'impression que ça n'a aucun intérêt de savoir dessiner. Mais si, c'est incroyable, et c'est peut-être une des compétences les plus importantes de demain. C'est juste qu'aujourd'hui, on a l'impression que faire des maths, c'est plus intéressant. Mais en fait, pourquoi ? La réalité, elle est pourquoi ?
Et alors, loin des roues, des tracteurs, des vaches, tu as finalement fait des études de physique-chimie que tu as arrêtées au bout de 3 ans. Alors, elle ressemblait à quoi ta vie quand tu avais 20 ans, finalement ?
L'angoisse. Mais l'angoisse pour moi, c'est-à-dire que j'étais faite pour tout, sauf pour faire de la physique-chimie. Je suis hyper maladroite. On l'a vu au démarrage de ce podcast. J'ai commencé par... tu en es témoin, du coup. J'ai commencé par trouver des trucs. Et du coup, j'étais très malheureuse, je pense, en physique-chimie, dans ce que je faisais, parce que ça me plaisait pas spécialement. Et puis, quand on te demande de la précision, de mettre 2 gouttes dans un bécher, et que toi, t'en mets 25, parce que finalement, 2 ou 25, approximativement, c'est le même ordre de grandeur, et que tu risques de faire exploser un labo, au bout de 3 ans, je me suis vraiment dit, il faut que je fasse autre chose. Mais ce que je garde de cette époque-là, c'est quand même mes meilleurs amis d'aujourd'hui, de l'exploration. J'ai des potes de l'époque qui vivaient, qui étaient guatémaltèques ou péruviens, vraiment, que j'ai rencontrés là. Donc, l'été, j'allais les visiter dans leur pays parce que je gagnais des sous pendant un mois, et après, je me rendais pour les voir. Enfin, tu vois, tout ça, c'était... ça a été une jolie époque, mais alors pas du tout ce que je faisais en cours. Et vraiment un profond et un total désintérêt, en fait, pour le sujet.
Oui. Donc après la physique, un peu plus tard, quelques années se sont écoulées, puis tu t'es dirigée vers le développement durable. Mmh. Et tu t'es, grâce à ça, retrouvée à New York, dans des situations assez incroyables, alors que tout le monde te dissuadait finalement de te diriger vers ce secteur, parce que c'était pas du tout plébiscité à l'époque. Et finalement, tu dis que tout ça, c'est venu naturellement, sans que tu ne le planifies. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience ? Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça ?
Alors oui, c'est vrai que je fais pas partie de ces gens qui fantasmaient d'aller vivre à New York. Moi, je me rappelle de copines quand j'étais en primaire ou au collège ou au lycée qui rêvaient d'aller vivre à New York. Alors moi, c'était pas du tout mon délire, en l'occurrence, mais c'est un peu venu tout seul. Et ce que j'en tire, on va dire, comme conclusion, la première, ça serait que... la chimie mène à tout, d'une. Les parcours ne sont plus linéaires. Vous le savez, en tant qu'étudiant, en tant que plus jeune génération, vous savez que vous n'allez pas, même si vous commencez dans la chimie aujourd'hui, vous pouvez avoir un média demain. J'en suis la preuve. Et surtout, le fait que tout est une expérience. C'est probablement une des plus grandes conclusions que j'ai aujourd'hui, c'est que finalement, ces années d'études de chimie, aujourd'hui, j'ai pas encore trop compris à quoi ça me servait, disons-le, mais peut-être que ça va m'être utile dans quelques années. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans le développement durable, c'était en 2007, et en 2007, c'était le premier Grenelle de l'environnement, tout le monde s'en foutait. La réalité, c'est que tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, c'est pas un sujet, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Tu vas empêcher les entreprises d'avancer. C'était ça, l'image autrefois. Et pour moi, c'était du pur bon sens que de penser au développement durable, pas parce que je suis spécialement écolo, mais tout simplement parce que je me dis qu'une entreprise, elle doit être prise dans son environnement, avec ses salariés, etc., etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on me disait, tout le monde s'en fout, et regarde aujourd'hui, personne ne dirait, on n'en a rien à faire du développement durable. T'as peut-être que quelques climato-sceptiques qui vont te dire, non, mais c'est pas un sujet. Mais bon, globalement, on se rend compte que c'est un sujet. Donc ça serait, on va dire, une autre expérience et un autre regard sur mon parcours de vie, que un sujet qui n'en est pas un pour les autres peut en être un pour toi, et demain deviendra le vrai sujet des autres. Voilà. Donc ne pas vous formaliser quand quelqu'un vous dit que ce que vous faites n'a aucun intérêt.
Donc finalement, grâce à cette orientation, tu t'es retrouvée à New York.
Oui.
Et tu as entamé là-bas une grande phase d'introspection.
Oui.
Et tu dis qu'être loin de ton quotidien, ça t'a permis de revenir à toi-même.
Oui.
En quoi s'éloigner de ce que l'on connaît, de tous nos repères, ça peut nous ramener à nous-mêmes ?
Alors oui, c'est en fait, on va dire que j'avais le meilleur en soi. Souvent, je donne cette phrase, le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi. Moi, j'avais un peu suivi ce que mes parents m'avaient dit de faire, ce que mes potes faisaient, et une sorte de parcours un peu que les autres tracent pour moi. D'avoir étudié la physique chimie, ça n'a aucun sens, hein, en l'occurrence. Mais j'avais toujours fait des choix presque par défaut, à part le choix du développement durable. Tous mes autres choix de ma vie étaient par défaut, enfin, quoi que je fasse, ou que je vive presque. J'avais Paris ou la Normandie, finalement j'ai pris Paris. Mon mec, machin, tout était très, très linéaire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre ou est-ce que je réponds aux attentes des autres? Et les attentes des autres, c'est les attentes des parents que tu as envie de satisfaire, le regard de tes potes, le regard de ton entourage, tes premières expériences professionnelles. Et c'est vrai que tout quitter, en fait, ça te permet presque de te réinventer, d'être vraiment toi-même. Moi, je suis partie vraiment sans rien, sans personne là-bas. Tu vois, par exemple, un artiste qui grandit dans une famille d'ingénieurs, tous les ingénieurs de la famille vont dire, ah, mais lui, c'est l'artiste, de toute façon, il fait rien de sa vie, il a pas compris, c'est pas l'art, on s'en fout, enfin, on n'a pas le temps de faire de l'art, etc., etc. Et du coup, être très, très malheureux dans ce contexte et arriver, par exemple, aux US ou dans n'importe quel autre pays et de trouver d'autres artistes qui vont devenir ses proches. Et là où personne va le juger, ça va lui sembler normal d'être artiste. Ça va pas être le mouton noir. Et c'est ça que permet probablement le fait d'aller à l'étranger. Mais l'étranger, ça peut être tout simplement quitter Paris pour aller en Bourgogne. Hein. Enfin, c'est pas la peine de partir forcément au bout du monde. Moi, c'est le hasard qui m'a fait partir à New York, ou non hasard. Mais ça permet de se réinventer from scratch et de peut-être se retrouver un peu soi-même hors de toutes les normes que notre entourage nous envoie.
Donc finalement, tu es partie de zéro et sans aucun réseau, et tu as réussi à vivre des choses incroyables à l'autre bout du monde. Et suite à ça, tu tires une jolie leçon de vie, qui est que les limites sont dans notre tête. Alors comment on les dépasse, ces limites ?
Ça, j'ai envie de te dire, c'est presque le travail d'une vie. On est dans l'ère du court terme, on attend toujours les 5 trucs pour. Je suis désolée à tous les auditeurs, je vais jamais réussir à vous donner les 5 trucs justement pour dépasser les limites, mais... vraiment se demander qu'est-ce qui est de moi et qu'est-ce qui est des autres. Pourquoi est-ce que, je m'appelle Catherine, oui, en chimie physique, effectivement, j'étais pas du tout au paroxysme de ma réussite, on va dire, j'étais... limitée en me disant, quand je regardais Carrie Bradshaw, ça va pas vous parler, vous êtes peut-être un peu trop jeunes, tous ceux qui écoutent aujourd'hui, mais tu sais, c'est la série Sex and the City, une chroniqueuse qui vivait à New York en écrivant la société. Je me rappelle que je regardais cette série quand j'étais plus jeune et j'étais très, très éloignée de ce personnage. Et je crois qu'inconsciemment, j'aurais adoré écrire, dans une revue sur ce qu'il se passe dans la société. J'étais à des années-lumière de penser que ça pourrait m'arriver un jour, et finalement, étape par étape, j'ai presque cette vie-là, on va dire, sauf que je suis revenue à Paris. Mais la limite, elle était dans ma tête à ce moment-là. Et en fait, quand on commence à construire, quand on commence à se dire, j'ai envie de m'aligner avec ce que je veux faire, ce pourquoi je suis peut-être bonne, parce que moi, comme on m'avait dit, fais des sciences, Catherine, étudie les maths. Si tu étudies les maths, tu pourras toujours tout faire. Je pensais que j'étais nulle en écriture. Tu regardes, aujourd'hui, je passe ma vie à écrire et à publier des livres. Donc, tu vois, ces moules qu'on t'envoie parce que tu étais la scientifique presque, fallait faire des sciences chez toi. Ça demande de s'affranchir, et je ne sais pas s'il y a une façon de le faire, mais peut-être la première, c'est chérir ses talents, se dire que ça a de la valeur que de savoir dessiner, que de savoir peindre, même si les profs vous ont dit de faire ça en passe-temps, ça a beaucoup de valeur, et se dire que tout est possible. Sincèrement, je pense que j'en suis une belle preuve, en l'occurrence. De la campagne à New York, après j'ai vécu dans d'autres pays, on peut s'affranchir, ce qu'on obtient à la naissance, en fait, on va dire que c'est pas tant d'où on vient que où on veut aller qui importe. Parce que quand on veut aller quelque part, je crois que c'est Paulo Coelho qui disait que tout l'univers met tout ça en action pour que ça arrive, et je crois que c'est vraiment vrai.
On va sauter plusieurs années, tu es de retour en France et tu retrouves ton train-train quotidien. Tu laisses finalement de côté toutes les questions que tu avais eues à New York. et tu retrouves une vie classique, on peut dire, jusqu'au jour où tu tombes sur une citation qui va changer beaucoup de choses pour toi. Je te laisse l'honneur de nous partager cette fameuse citation et de nous expliquer en quoi, justement, elle a pu bousculer ton chemin et toute ta route.
C'est vrai que quand j'étais à New York, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, je m'étais retrouvée, je trouvais que je vivais dans beaucoup d'illusions. J'en parle dans mon deuxième livre, je donne cet exemple où je me retrouve, tu sais, il y a des soirées qui sont des soirées privées qui sont organisées dans les rooftops, donc dans ces, comment ça s'appelle, dans ces buildings où t'as des appartements de dingue, où il y a des piscines ou des trucs un peu cachés que seuls les New-Yorkais de bonne famille connaissent presque. Et moi, je me retrouvais invitée dans ces, comment ça s'appelle, dans ces soirées. Et à New York, il faut savoir qu'on marche beaucoup en tennis dans la rue et souvent on met les high heels, les talons, on les met au pied des buildings en arrivant. Et moi je me rappelle donc de faire ça, de marcher en tennis parce qu'en plus je suis pas du tout stable sur des 10 cm quoi globalement, et d'arriver dans ces soirées, d'avoir cette impression de rentrer dans un personnage, tu vois. Et je rentrais bien dans le personnage parce que déjà quand t'es française tu gagnes des points, quand t'as un job, quand tu travailles sur la 5e avenue, t'en gagnes. Quand t'habites dans l'Upper East Side, t'en gagnes. Et je cochais plein de points, quoi. Et je me disais, mais pour moi, c'est juste un personnage. Et j'avais l'impression, en arrivant dans ces soirées, de me déguiser, de rentrer dans mon personnage. Et je me rappelle de ce moment-là qui était très frappant. Et je me demandais, mais est-ce que tous ces gens, ils ont aussi des chaussures dans leur sac? Et est-ce qu'eux aussi, ils sont en train de jouer un personnage? Ou alors, est-ce qu'ils ne se définissent que par ce qu'ils font dans leur boulot? Parce qu'à New York, c'est très diffus, tu vois, cette notion de qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça te définit. Ce qui est assez vrai en France, mais qui est encore plus marquant à New York parce que tu sais même plus si tu vas à des événements pro ou à des événements perso, quoi, globalement. Et je me rappelle de ce moment où je me suis dit, mais en fait... c'est pas moi tout ça. Donc bon, et ça je l'avais laissé de côté en me disant c'est une grande illusion. Et je rentre à Paris. Et là on retombe très vite dans son train-train, tu vois. On retombe très vite dans sa petite vie facile où tu vas boire des coups en terrasse le soir, où tu vas au boulot la journée. Ton boulot, moi il était intéressant en plus, mais je sentais que j'étais pas dans mes chaussures et je sentais que je pouvais faire un peu plus en fait. Je commençais déjà à dire, mais attendez, j'en ai marre de voir de l'actualité anxiogène, j'en ai ras-le-bol d'entendre les gens râler, je comprends pas pourquoi on focalise les médias sur des faits divers et autres. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais il faudrait qu'on crée un média positif, en fait. Et cette fameuse création d'un média positif, j'étais persuadée que TF1 ou France 2 allaient le faire. Et quand je rentre à Paris, c'était un peu ça que m'avait appris New York. C'était que il y avait une sorte de grande illusion, mais aussi des réussites fulgurantes et autres, et qu'il y avait quand même un goût de l'optimisme qu'on n'avait pas en France. Et là, je me dis, mais j'ai vraiment envie de monter un média positif, mais en même temps, je ne suis que diplômée en physique chimie et en développement durable, donc rien à voir avec le schmilblick. Et finalement, un jour, je lis une citation. Effectivement, l'histoire, elle est pas, ça paraît tellement couillon, mais c'est tellement vrai qu'un jour, je lis une citation sur Internet qui a été publiée sur un groupe, je sais pas, Facebook, que je ne suivais même pas, je crois, de mémoire, et qui disait « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. » Puis, cette citation, elle résonne. Et là, je me dis « Mais c'est vrai, pourquoi je reste ? Genre, je sais que je peux faire mieux. » Et de ce jour-là, effectivement, je suis allée voir mon boss en lui disant « J'adore mon boss, j'adore mes collègues, j'adore ce que je fais au quotidien, mais je pense que je suis amenée à faire autre chose. » Et donc, j'ai démissionné ce jour-là. Sur une citation, donc, ce que ça apprend aussi, c'est qu'on est... qu'une citation publiée peut-être par quelqu'un d'Inde, du bout du monde, il ne sait pas que cette citation m'a fait changer de job.
Très jolie. Donc, grâce à cette fameuse personne qui t'a mis cette fameuse citation sur ta route, au bon moment, au bon endroit, tu as décidé de démissionner et de te lancer dans cette aventure de l'optimisme qui a eu, le concept a eu un succès immédiat en fait. Et comment tu l'expliques ? Qu'est-ce que ça traduit pour toi un tel succès ? Est-ce que les gens étaient en quête de sens et avaient finalement ce grand besoin d'optimisme ?
Écoute, je pense qu'on était nombreux à se dire qu'on en avait marre de l'actualité négative. Tu vois, je pense qu'on était nombreux, à se dire qu'il y avait plein de gens qui agissaient, qu'on ne les voyait pas forcément. Et celui qui agit, ça peut être l'agriculteur en Normandie comme le jeune Parisien, tu vois, c'est tout le monde à son échelle. Et quand j'ai lancé, il faut savoir que moi, je me suis dit, tout le monde va me prendre pour... Ils vont se dire que je fais une crise de la trentaine, tu vois. Ils vont me prendre pour une grande tarée que de faire ça. Et du coup, j'ai pas osé le dire à mes potes. Ils vont, parce que comme j'étais rentrée des États-Unis avec beaucoup de réflexions personnelles, j'avais lu des trucs sur la religion, sur la physique quantique, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Tu vois, j'étais riche de 1000 nouvelles connaissances et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, mes potes, ils vont tous penser que je suis perché, quoi. Et du coup, j'avais pas osé leur dire, j'avais peur du jugement des autres, du jugement de mon ancien réseau et autres. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à le dire, de proche en proche, des gens ont commencé à suivre la page. Je l'avais mise en ligne anonymement. Et là, je me suis dit, ah, c'est incroyable, il y a 300 personnes, puis il y a eu 1000 personnes, puis il y en a eu 10 000, 100 000, 1 million, enfin, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'émerveillais, ne serait-ce que de 300 personnes qui écoutent, je trouvais ça incroyable, en fait. Et j'ai toujours trouvé incroyable où j'en étais. Et tout à l'heure, on parlait de résilience, tu sais, quand on parlait de l'enfance, et ça, je l'ai toujours eu, cette résilience. Je trouve toujours incroyable, en fait, tout ce qui est de l'acquis, en l'occurrence. Et oui, ça répondait probablement à un enjeu de société, mais comme j'avais bossé dans le développement durable avant, comme j'avais aussi bossé, alors on n'a pas tout reparcouru du parcours parce qu'il est complexe, j'ai bossé dans le marketing et dans le digital aussi. Et du coup, les gens, ils ne m'ont pas regardé comme la bienheureuse naïve, tu vois, qui prenait de l'optimisme un peu béat, regarder la vie avec des lunettes roses, mais l'optimisme comme force motrice en se disant, mais attends, il faut être optimiste parce que pour construire notre parcours personnel, il n'y a pas le choix. Et donc, on m'a écouté probablement parce que quand j'ai commencé dans le développement durable, tout le monde m'avait dit, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout. Quand j'ai bossé dans le marketing et dans le digital, vous, ça vous paraît naturel maintenant. Mais à un moment donné, je me rappelle des grandes entreprises du luxe qui me disaient, non mais Catherine, vendre sur Internet, c'est antinomique, même avec la notion de luxe, parce que nous, il faut qu'on soit rare, donc jamais on vendra sur Internet. Tu vois, et ben, finalement, tout le monde s'y est mis. Donc, quand j'ai commencé à parler de l'optimisme, on avait quand même vaguement compris que j'étais un peu sur toujours ce qui était, tu vois, des trucs de tendance de demain. Et ben, on m'a écouté. Je pense que ça a beaucoup joué et ça répondait à un besoin. Et la notion d'authenticité, je suis madame tout le monde. Tu vois, on parle de Normandie, oui, on parle. Oui. Je suis vraiment madame tout le monde. Tu vois, j'avais aucun réseau, j'ai personne de journaliste, aucun contact, machin. Bah oui, maintenant, j'ai les contacts des patrons des entreprises. Mais ce n'est pas dû à un carnet d'adresses que je suis allée cultiver. C'est juste que c'est des patrons optimistes qui m'ont un jour contacté.
Et donc, tu nous le disais, tout s'est très vite emballé. Comment tu as fait pour tout maîtriser et pour structurer un petit peu tout ce concept? Parce que ça a pris une ampleur rapide et assez monumentale. Et finalement, tu n'as pas fait d'études autour du commerce ou de l'entrepreneuriat ou autre. Comment tu as fait pour t'entourer et pour assurer ce développement de la meilleure manière?
J'ai vaguement regretté de pas avoir fait d'école de commerce à un moment donné quand même, parce que je me suis dit, oh là là, ils sont tellement plus forts. Mais tu vois, on parle souvent de la notion de se dire qu'on est du syndrome de l'imposteur, de se dire, mais pourquoi moi ça marche, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai longtemps regardé avec, tu vois, des yeux un peu pleins de paillettes mes potes qui étaient capables de faire des business plans à 3 ans. Comme moi, je me disais, mais non, enfin, je suis, faire un business plan à 3 ans, c'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, je disais, un jour, j'ai dit à mon comptable, mais si tu veux, je te tire les cartes, tu vois, à la loterie, et je t'annonce des chiffres qui sont pas du tout réels. En fait, tu vois, j'avais vraiment cette notion de je suis pas capable d'anticiper. Mais du coup, j'ai accepté d'en faire une force. C'est-à-dire que j'ai accepté de me dire, on va essayer de construire, on va essayer de créer de la valeur, en l'occurrence. Et une fois qu'on a créé de la valeur, les business models se mettent un peu en place. Enfin, n'importe quel financier qui regarde mon business model se dit que sur chacune de nos actions, on peut faire du x10. Mais nous, on est plutôt dans une notion de sobriété heureuse. En fait, on veut créer quelque chose qui a de la valeur pour les gens, et les gens leur expliquer que, pour faire tourner un site web, il faut qu'on soit 4 à 5. Puis on a autour de nous quelques freelances. Il faut qu'on puisse aller payer des salaires. C'est le nerf de la guerre, oui. Ce que vous devez apprendre probablement dans les écoles de commerce. Moi, c'était juste de me dire, il nous faut forcément du flux financier parce que les échanges de marchandises et échanger 3 pulls contre quelque chose, ça ne marche pas pour payer un loyer. Donc, j'avais bien compris qu'il fallait qu'on crée de la valeur, qu'on ait une rentrée d'argent. Je me suis toujours barométrée à ça pour te la faire courte. Et j'ai un business model qui est plutôt de la sobriété heureuse, et je dis aux gens qu'ils me payent ce qu'ils ont envie de me payer, par exemple pour mes conférences. Et ça donne que je leur dis, mais vous bossez dans un grand groupe du CAC 40, dans une grande banque, sachez que c'est grâce à vos conférences que je peux pratiquer de l'équité et aller intervenir gratuitement auprès de, auprès d'associations de femmes battues ou autres partout sur le territoire français. Et c'est ce que j'appelle le principe d'équité qui est ben, forcément qui s'oppose à tous les business plans. Tu ne peux pas te tracer de trajectoire, en fait, quand tu fais ça. Mais c'est une sorte de lâcher prise, une sorte de confiance. Je ne sais pas combien de temps ça pourra durer, mais ça dure déjà depuis 4 ans, 4-5 ans. Donc, on a passé les deux premières années, tu sais, qui sont très dures, normalement, on te dit ça. Mais comme nous, on a toujours cherché à créer de la valeur avant de chercher à vendre quelque chose, eh ben, on a un modèle un peu bizarre, un peu biscornu, mais...
Comme quoi, on peut faire différemment.
On peut faire différemment, et c'est ça qu'on voudrait nous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on peut créer une boîte où les gens ne sont pas torturés, on peut créer de la valeur, on peut être professionnel et pour autant être un peu joyeux.
Oui. Catherine, on arrive aux petites questions philosophiques de la fin. En quoi l'optimisme, au sens propre du terme, ça peut changer une société ?
Parce que faut pas oublier que ce qu'on imagine, on le crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on est baigné dans des scénarios catastrophes. Donc, tu sais, dans des dystopies, enfin, vous regardez la télé, c'est hyper facile, en fait, d'imaginer une pandémie qui arrive, d'imaginer, comment ça s'appelle, des martiens qui attaquent le truc, un tsunami, machin. C'est hyper facile d'aller imaginer les pires scénarios et ça devient de plus en plus difficile, en fait, d'imaginer des scénarios positifs. Mais que ce soit pour la société d'un point de vue global ou pour son parcours de vie, en l'occurrence. Et l'optimisme, en fait, c'est le prérequis à la construction d'une société qu'on espère un peu plus chouette, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important d'aller le rappeler que si on n'imagine pas un futur souhaitable, dans son parcours professionnel, personnel, peu importe, personne ne va le faire à notre place. Donc, c'est une sorte d'hygiène que d'oser l'optimisme pour créer parcours de vie et parcours de société.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à Catherine quand elle avait 20 ans ?
Bon, t'en fais pas, tu es imparfaite, mais tout le monde est imparfait. Voilà. On a toujours tendance, surtout avec les réseaux sociaux, à se dire que telle boîte marche mieux que nous. Nous, de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'on est des géants, tu vois. Mais en fait, non, on est une petite équipe qui essaie de faire au mieux. Et cette illusion, c'est toujours... Ben, on pense toujours que c'est mieux ailleurs, etc., etc., que les autres ont une meilleure vie. Moi, j'ai des copains qui sont influenceurs. T'as l'impression, quand tu regardes leur story Instagram, t'as l'impression que vivre autour du monde, c'est absolument incroyable. Mais alors, pour rien au monde, pour avoir passé des vacances avec eux, mais pour rien au monde, je ferais ça. Vraiment. Donc, c'est jamais mieux chez les autres et on est tous imparfaits. La réalité, elle est là. Tu peux parler avec tous les entrepreneurs qui ont monté des boîtes. Enfin, moi, je vois tous les copains entrepreneurs qui ont probablement les plus grosses boîtes du CAC 40, enfin, pardon, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tout le monde te dit qu'il y a des coups de chance là-dedans et que tout est imparfait aussi chez eux. Et il faut être à l'aise avec cette notion d'imperfection et les autres ne sont pas mieux. Donc ça, c'est ce que je dirais vraiment à la Catherine d'hier. Et tu vas voir, la vie est une expérience.
Et donc l'illusion, comment tu la définirais, toi ?
Par le monde qui nous entoure. Tout n'est qu'une illusion, en fait. À partir du moment où on ne vit pas une situation... on peut se dire qu'elle passe par un prisme déformant de ce que l'autre a voulu t'en raconter et de ce que toi, tu en vois. Donc, tout est une illusion et la seule chose qui, pour moi, n'est pas une illusion, ce sont les émotions. Tu vois, c'est la rencontre de l'autre, c'est qu'est-ce que je vis intérieurement ? Est-ce que je me sens joyeux ? Est-ce que je me sens pas joyeux ? Etc., etc. Et je crois que seul le vivant n'est pas illusion. Tout ce qui est la plante verte, etc., tout ce qui n'est pas construit par l'homme n'est pas une illusion et tout ce qui est construit par l'homme est une illusion.
Quelle est ta propre définition du bonheur ?
La joie, ce baromètre, ce truc qui fait que tu sens que peu importe les pètes de vie qu'on peut avoir, parce que moi, comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes, que d'aller s'enthousiasmer, en fait, de savoir encore s'enthousiasmer de ce qu'on a, de ce qu'on voit, de la beauté des gens, de la beauté des autres, de la beauté de la nature, etc. Du fait, tu vois, après une journée comme aujourd'hui, là, j'en suis à je sais pas combien de rendez-vous, etc., me dire, ce soir, je vais pouvoir bouquiner un livre, et tu vois, être heureuse de ça, être heureuse des rencontres que j'ai faites aujourd'hui, d'avoir découvert, on a papoté ensemble, tu m'as raconté tout ton parcours, je trouve ça incroyable, en fait. Donc, le bonheur, c'est savoir s'enthousiasmer de l'instant présent. Ça serait ma définition, peut-être.
Ok, parfait. Dernière question plus générale. Quel conseil tu voudrais donner, cette fois-ci, aux jeunes d'aujourd'hui, qui cherchent leur chemin, qui savent peut-être pas forcément qui ils sont, ce qu'ils voudraient faire de leur vie ?
Alors, le premier, c'est vous en faites pas. Il y a des gens qui, à 50 ans, cherchent toujours. Hein. vous en faites pas. Vous pouvez changer vous-même 50 fois d'idée. Je crois que j'en suis la preuve. Et vivez votre parcours professionnel comme une sorte d'expérience. C'est-à-dire que même le job le plus inintéressant au monde, avec le boss le plus toxique, vous apprendra quelque chose. On parlait de la chimie au démarrage. Moi, je me suis longtemps demandé... pourquoi j'avais fait ça, mais je suis sûre qu'il y a un intérêt. Ça m'a ouvert à la physique quantique. Je suis passionnée par ce sujet aujourd'hui. Donc, tu vois, même dans les pires expériences, en fait, il y a toujours de la beauté. Le boss le plus toxique va t'apprendre que tu es capable de faire preuve de résilience. Celui qui te donne une grande charge de travail va te rendre compte que t'es capable d'être besogneux, etc., etc. Donc, tout est apprentissage. Et j'aime bien me voir la vie comme une sorte de jeu vidéo. Tu sais, en fonction des étapes, tu gagnes des compétences, en l'occurrence, du savoir-faire, mais du savoir-être aussi, il y a les deux. Et après, tu passes à un niveau supérieur, tu sais, dans un monde un peu différent. Et ça serait peut-être la métaphore avec changer d'entreprise. Donc, vivez tout comme une sorte de grande expérience ou un puzzle géant que vous êtes en train de faire et des gens vous donnent, tu sais, tous les gens avec qui vous allez travailler dans votre parcours professionnel vous donneront des pièces de ce puzzle.
C'est une très belle manière de voir la vie.
Voilà, mais vraiment, c'est une expérience. La vie est une expérience. Et c'est pas parce que, et avec une sorte d'humilité face au temps aussi, c'est pas parce que vous êtes dans un job de merde aujourd'hui, il y en a hein, qui le seront, hein, je pense qu'on y est tous passés, hein, que demain ça sera encore le cas. Tout peut changer en fait. Et c'est juste une temporalité, mais il faut vivre l'instant présent. C'est-à-dire, il faut pas attendre en se disant, bah, demain ça sera différent. Il faut se dire, alors là, je suis vraiment dans un job de merde, hein, disons-le. Par contre, j'apprends des trucs qui vont me permettre de me solidifier pour demain. Et vraiment, notion de parcours, la vie, on part d'un parcours professionnel. Donc, arrêtez de le figer en se disant, bah, je gagne moins que les autres. Je te garantis qu'aujourd'hui, mes potes qui gagnaient beaucoup au démarrage ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Et à l'inverse, des gens qui gagnaient que dalle au démarrage gagnent beaucoup plus, tu vois. Et à l'inverse, des gens qui avaient des jobs vachement intéressants au démarrage, après ont changé, souvent des jobs qui sont beaucoup moins intéressants, etc., etc.
Fabuleux. Écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager pour conclure cette belle interview?
Osez être différent, osez vous dire que vous êtes imparfait, mais rassurez-vous, tout le monde est imparfait, voilà, et osez aller, ne mettez pas de côté ce qui vous fait plaisir, parce que ce qui vous fait plaisir, demain sera peut-être le plus utile à la société, même si aujourd'hui on vous fait passer pour des bisounours, parce que vous aimez dessiner, et on vous dit, mais ça sert à quoi de savoir dessiner? Voilà, donc vraiment, osez être vous, personne ne le fera à votre place.
Ça tombe bien, c'est le mantra du podcast Oser. Donc, tu as bien bouclé la boucle.
Et pas fait exprès, en plus.
Bah écoute, merci beaucoup, Catherine, pour tous ces échanges hyper positifs et hyper optimistes, pour le coup. Donc, merci pour ce temps, merci pour ces partages et je te dis à très bientôt.
Merci d'avoir écouté jusque-là. Belle journée à tous.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné, ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.